France Inter.
L'écrivain et traducteur Pierre Ducrozet a commencé à faire des journaux à l'âge de 9 ans, a fait Sciences Po Lyon et le Tour du Monde, a toujours été passionné par la politique et la littérature et s'imaginait journaliste. Au cours de sa carrière, il a bu, enseigné, chroniqué, écrit et fréquenté les écrivains morts comme des amis vivants. En 2010, il publie son premier roman, Requiem pour Lola Rouge, puis La vie qu'on voulait et Héroïka sur Jean-Michel Basquiat. 17 ans de sa vie se sont écoulés à Barcelone. Il a d'ailleurs reçu le prix Méditerranée de l'essai pour sa direction de l'ouvrage Barcelone, Histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. Prix de Flore pour l'invention des corps en 2017, qui traite notamment du drame d'Iguala au Mexique, lors duquel 43 étudiants furent enlevés et probablement assassinés. Le propriétaire du corps habitant aujourd'hui à Marseille est aussi l'auteur de la fiction écologique Le Grand Vertige. Cette année, il a publié Autoportrait sans moi dans la collection 13 et portraits du Mercure de France, ainsi qu'une préface dans l'ouvrage L'atelier d'écriture, Mes rêves alloués de Gabriel Garcia Marquez, traduit en français par Bernard Cohen et paru aux éditions Segers. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Pierre Ducrozet.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
J'essaye de m'enthousiasmer régulièrement. Là, la dernière chose, c'était les calanques, dont je me suis rapproché géographiquement et que je redécouvre, que j'adore. J'adore ces paysages majestueux. Et aussi des lectures. Je suis dans un moment de beau moment de lecture. Il y a des moments d'avidité comme ça. Et là, j'ai enfin lu des grands livres que sont La femme gelée d'Annie Arnaud et Les vagues de Virginia Woolf, qui m'ont beaucoup impressionné tous les deux dans leur genre.
Tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez commencé à faire des journaux à 9 ans. Alors, le premier s'appelait Sport Passion. C'était avec une amie.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il y avait dans Sport Passion ?
Ah, il y avait 150 pages exhaustives sur tous les événements sportifs. Roland Garros, enfin, tous les tournois de tennis, la Coupe du Monde, les JO. Enfin, c'était vraiment, on voulait tout raconter dans un style absolument insupportable à relire, rébarbatif. Mais on était passionnés, on regardait tout. On faisait les petits reporters depuis nos salons respectifs.
Et au lycée, avec deux amis, vous en avez fait un autre, un journal d'extrême gauche. Vous aviez des cheveux longs,
oui.
Il y avait des dessins et ça s'appelait SOS.
Oui, c'est ça. Oui. C'était une sorte de Charlie Hebdo de l'Ouest lyonnais, parce qu'on était dans un lycée bourgeois. Et donc, on avait à cœur un peu de rentrer un peu dans la bataille politique. Et donc, on faisait des dessins un petit peu comme ceux de Charb et de Luz. Et on essayait d'écrire des articles. Là aussi, trop long, il y avait un éloge, je me souviens, de Che Guevara sur un tunnel de 15 pages et un autre de Gandhi à côté, dans deux genres différents.
Vous aviez 17 ans.
Oui. On mangeait sous le pont du lycée et on aurait aimé faire la révolution.
Alors, avec cet ami avec lequel vous avez fait le journal SOS, vous êtes allé à Barcelone en 2002 pour le grand rassemblement anti-G7. Et alors, lui, il s'est fait arrêter.
Oui, tout à fait, Stéphane, pour le nommer. Et on était tous pris dans la nasse un peu de la fin de la manifestation qui avait mal tourné. Et il a été embarqué par les flics. Il est resté 2-3 jours en prison. Nous, on faisait le tour de la prison en chantant son nom et des chansons paillardes. Et ça l'a... Parce qu'il était dans une prison avec une quinzaine d'autres personnes basques. Donc, il ne comprenait pas la langue. Et je crois que s'il a... Voilà, ça... Je ne sais pas s'il a entendu les chansons, mais nous, ça nous donnait du baume au cœur. Et finalement, voilà, il est sorti. On a essayé de le soutenir à nos manières. On avait aussi fait des chaussures avec son nom marqué pour sa libération. Enfin, on était on militait à notre niveau. Et voilà, et Stéphane s'en est sorti, mais il est resté militant maintenant contre l'autoroute entre Toulouse et Castres. Voilà, on continue au combat.
Votre révolte a-t-elle diminué avec le temps ?
J'espère non. J'espère rester un grand adolescent de 17 ans qui a les mêmes idéaux, les mêmes rêves et puis les mêmes bêtises aussi. Donc j'essaye.
Vous avez fait Sciences Po Lyon et aussi une fac de lettres en parallèle. Quelle était votre spécialisation à la fac ?
aucune. Je voulais être écrivain déjà, mais j'arrivais pas à trouver dans les bancs des amphis exactement ce qui me plaisait. Alors je piochais. Je me souviens de m'être inscrit en littérature parce que c'était ce que j'aimais le plus. Mais ensuite est arrivé au cours sur Belle du Seigneur, qui était le livre que j'aimais le plus, et de m'être ennuyé. Alors je me suis dit, ah bah du coup c'est pas non plus ça. Et d'être retourné sur les bancs de Sciences Po, où je m'ennuyais aussi, mais j'ai rencontré des super amis et on a fait d'autres choses. Mais voilà, c'était, il n'y avait pas exactement, en fait, ma vraie passion, c'était lire et écrire de mon côté et fréquenter mes amis dont vous parliez avant, qui étaient les écrivains. Les fréquenter directement, parler avec eux de...
Les morts.
Les morts, oui, oui, ou les vivants aussi, ouais, les deux. Mais en tout cas, leur parler
à travers
les livres, je trouvais que c'était ça le contact le plus direct que je pouvais avoir, plus que par l'université. Que maintenant, je refréquente plutôt de l'autre côté et que j'aime par ailleurs l'université. Mais là, à ce moment-là, c'était pas exactement ce que je cherchais.
Qu'est-ce que ça veut dire, refréquenter de l'autre côté?
Après des années, j'ai donné des cours à Bruxelles et l'année prochaine aussi. Et voilà, ça me plaît, mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais besoin d'un contact plus sauvage avec les écrivains.
Vous serez même à Princeton, si je ne m'abuse.
C'est ça, oui, je vais partir le semestre prochain enseigner la littérature et l'écriture à Princeton. J'en suis vraiment heureux.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec l'écrivain et traducteur Pierre Ducrozet. Faisons un peu connaissance avant de nous intéresser à vos deux dernières publications. Après avoir été diplômé de Sciences Po, vous avez fait un tour du monde qui a changé votre vie. Vous dites que vous êtes parti en étant un gamin et que vous êtes revenu à 21 ans en étant quelqu'un d'autre.
Oui, pas complètement un adulte non plus, mais en tout cas plus un gamin. On est parti à deux avec mon ami Thomas et on s'est comme si on s'était... qu'on avait fait des vases communicants, et moi je me souviens d'une sorte d'innocence, d'élan, etc., et que le voyage m'a appris non seulement à prolonger cet enthousiasme et cette exaltation de la vie, du voyage, mais aussi une sorte de saveur aussi aigre-douce de ce que c'est réellement l'existence. La mort et le vide sont présents partout, même dans le paradis, que le paradis n'existe pas. Toutes ces choses-là, qui étaient un apprentissage fort, mais aussi amer, et que voilà, depuis lors, le voyage pour moi est synonyme pas que de divertissement, mais aussi de cet apprentissage du corps qui passe par la souffrance aussi.
Et le corps, d'ailleurs, c'est récurrent dans votre œuvre, enfin, il est très présent.
Oui, c'est une sorte de fil rouge, l'impression que tout ce qui m'intéresse dans la littérature passe par le corps, et que l'écriture aussi, c'est celle de la chair, des gestes, qui est celle qui me passionne le plus.
Mais écrire, c'est un acte physique, on l'oublie souvent.
Essentiellement, ouais, ouais, ouais.
C'est fatigant.
C'est fatigant,
littéralement. Alors,
mais c'est pas que la main, c'est tout le corps. Moi, quand j'écris, je sue, je me lève, je crie, je suis exalté, je suis triste. C'est vraiment tout le corps qui est engagé. Et d'ailleurs, quand le corps ne va pas bien, l'écriture ne suit pas. C'est vraiment un seul. Il y a vraiment pas de chose. Ce serait les mains qui travailleraient toutes seules. D'ailleurs, la main n'est pas. La main est l'essentiel, même l'organe essentiel du corps finalement. Et donc, ouais, c'est tout le corps qui est engagé dans la lecture aussi, d'ailleurs.
La main est l'organe essentiel du corps ?
En fait, je lis des choses autour de la main. En ce moment, je suis fasciné comme cette chose nous a à la fois devant nous et en même temps, enfin toujours en avance un peu sur nous. Et là, par exemple, je suis en train de faire des gestes de ma main que je ne contrôle pas et qui dit certainement plein de choses de moi, donc que j'ignore. Et en même temps, c'est évidemment la main qui nous a aidés à tout construire, à faire, dès les premiers jours, à faire le feu, etc. Donc la main, quand on dit que la main écrit, c'est peut-être tout le corps qui passe par la main, et c'est un engagement entier de... Voilà, moi, les grands livres, par exemple, qui ont changé ma vie, je me souviens d'un état de plus que d'extase, de transformation, de métamorphose du corps, oui.
C'est incroyable.
Oui, oh, je suis sûr que c'est votre cas aussi. C'est quand on lit ou quand on écrit, on sait pas, c'est évidemment pas que l'œil qui est en jeu, c'est tout,
oui,
tous les sens.
Des études montrent qu'on ressent les émotions si, par exemple, on décrit quelque chose de viscéralement écœurant dans un livre, le cerveau l'interprète comme s'il était réellement en train d'assister à la scène.
Ah oui, ouais. Bah ouais, non, moi quand je suis dégoûté par une scène, ouais. je suis pas juste dans mon œil, dans mon œil.
En revenant de ce tour du monde, vous êtes installé à Paris, vous avez fait des stages, des petits boulots, dont certains à Radio France.
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
J'essayais de m'incruster dans des émissions. Non, j'étais à ce moment-là dans Carnet de campagne, d'ailleurs, qui existait.
Ah oui, bien sûr.
Oui, oui. Et d'autres, j'avais eu un stage d'un mois, et donc je me baladais de couloir en couloir, entre culture et inter. C'était formidable, j'adorais ça.
En 2019, vous êtes parti 7 mois en Asie.
Oui.
Népal, Japon, et puis dès que vous êtes rentré, vous vouliez repartir au Japon.
Oui, alors je voulais même pas partir du tout parce que c'était en fait on tournait avec Julieta qui était parti en voyage autour d'un virus qui est devenu mondial et qui nous a un petit peu embêtés. Et on tournait. Moi, je voulais traverser la Chine absolument. Elle me disait, je crois que c'est pas une bonne idée. Moi, je disais, si. Finalement, elle a eu raison, heureusement. Et la fin du voyage, c'était au Japon. Et là, le monde, selon Macron et d'autres, était en guerre. Et nous, on voulait plus repartir vers le monde qui était en guerre. Et le Japon était un havre à ce moment-là encore. Et donc, jusqu'au moment où le ministère m'a appelé et m'a dit, voilà, il y a un dernier avion commercial qui part. Ensuite, ce sera les avions militaires. Donc, je vous conseille de partir. Et on a été obligé de rentrer.
Vous qui avez tant voyagé, comment vivez-vous à l'étranger? Est-ce que vous trouvez des petits boulots? Comment vous vous faites à chaque pays où vous vous installez?
Dans ces premiers voyages à 20 ans, c'était avant. On travaillait le temps qu'il fallait pour partir. Et maintenant, comme je vis de mon écriture, quoi, j'écris tout le temps. Enfin, je travaille tout le temps. Et donc, du coup, c'est finalement pareil pour moi d'être à Barcelone, Marseille ou à Benares, quoi. Donc voilà, je m'organise comme ça.
Vous faisiez déjà des grands voyages avec vos parents?
Oui, c'est vrai que c'est eux qui m'ont donné ce goût-là. Oui, on est allé à Madagascar, on est allé au Liban, on est allé aux États-Unis. Mon père est encore chanteur et donc on l'accompagnait sur ses tournées, notamment une assez épique à Madagascar. Je me souviens où on faisait la technique, on était des enfants qui travaillaient, quoi.
C'est bien, faut réhabiliter ça. Dans Autoportrait sans moi, Pierre Ducrozet, vous écrivez « J'ai longtemps cru que partir m'apporterait plus de réponses que de rester assis chez moi. Je n'en suis plus si sûr. J'allais mentir. J'y crois encore. » Quel est le verdict? Y en a-t-il un?
Oui, non, j'y crois encore. J'y crois encore. J'essaye parfois j'ai des petites désillusions et parfois là je me disais en écrivant ce livre, ah ça y est, j'ai un petit peu moins envie de voyager, peut-être que c'est bien aussi, peut-être qu'il faut un peu se... Et en réalité non. En réalité le monde, comme dit Sandra, pour moi c'est une sorte de grand fruit, il y a des hommes, des femmes qui partent, il y a des ports, enfin ça m'excite quoi, et tant que j'aurai cette curiosité là, j'aurai envie d'aller voir ce qui se passe quoi. Par exemple, je parlais de l'Inde tout à l'heure, enfin de Benares, quand je pars là-bas, même si je suis déjà allé, je suis excité par ce que je vais voir, ce que je vais découvrir. Et c'est une curiosité générale, quoi, qui est celle de l'appétit de vivre. C'est la même chose pour moi.
En 2005, vous êtes installé à Barcelone sans parler espagnol.
Oui.
Mais maintenant, vous parlez parfaitement. Alors, castillan ou catalan?
Alors, ma langue principale, c'est l'espagnol. Comme j'étais en Catalogne, je parlais aussi catalan, mais surtout l'espagnol, parce que c'est ce qui nous, le castillan, parce que c'est ce qui nous rassemblait là-bas. On était des gens d'Argentine, du Mexique, de France, d'Allemagne, de partout. Donc, du coup, l'espagnol est ce qui nous et je l'ai appris. Je rêvais de l'apprendre. Je rêvais de lire en espagnol les auteurs qui me passionnaient et de pratiquer cette langue si musicale. Et d'ailleurs, j'ai fait une sorte de mélange entre, je l'ai appris avec des Argentins, mais il y avait aussi des Colombiens, des Mexicains. Je parle une langue qui n'est pas celle de l'Espagne, mais pas non plus celle d'Amérique latine, qui est peut-être celle de l'Atlantique, entre les deux, je sais pas.
Barcelone, ça a été une révélation pour vous?
Ouais, oui, ça a vraiment tout changé. Il y a eu une sorte de... J'avais 24 ans et je me suis réalisé, je me souviens très bien de dire mon nom là-bas et que c'était une autre personne, en fait, à laquelle il se référait. C'était pas le Pierre d'avant, j'ai eu l'opportunité de créer un nouveau personnage, une nouvelle personne qui était moi, mais qui était quelqu'un que j'ai pu façonner in situ et qui était peut-être plus fou, plus libre, je sais pas. Enfin, c'était celui que je rêvais d'être et que ici, à ces années-là à Paris, j'étais pas complètement en accord avec le lieu, avec le monde, avec moi. Et là, il y a eu un truc d'explosion un peu et de comme si je coïncidais avec moi-même, avec ce que je voulais être. Et l'Espagne, pour moi, c'est toujours ça. Ça l'est encore. C'est cette manière d'être au monde, d'appréhender l'autre, il y a quelque chose de tactile aussi. Il y a quelque chose de très physique dans nos relations et que j'aime beaucoup. Et l'espagnol incarne ça pour moi. C'est une langue droite, franche, très musicale, mais très directe. Et j'aime ça. J'aime beaucoup ça.
Votre père dit qu'on ne guérit jamais de l'Espagne.
Alors, c'est Clément Rosset, mais ça pourrait être... mais il aime beaucoup Clément.
Mais j'ai une découverte pour vous, Clément Rosset et votre père. Oui.
J'en suis ravi. Ils s'aiment beaucoup d'ailleurs l'un l'autre, mais c'est vrai ça.
Enfin, mais l'un est mort quand même.
L'un est décédé, ouais.
Mais ça ne change rien, puisqu'on a décidé que les morts étaient vivants.
Exactement, c'est les mêmes choses et heureusement que c'est voilà, pas mon père, mais j'aime beaucoup Clément Rosset, il dit ça, ouais, c'est dans une interview, j'avais trouvé ça, et il parle aussi de l'Espagne souvent dans ses livres, que justement il y a cette philosophie matérialiste du son cosas que pasan, c'est des choses qui existent, qui arrivent, et il faut faire avec, et il y a un truc très, voilà, et il y a une autre phrase aussi qui me plaît beaucoup, et qui est lo que hay, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a devant nous et il faut faire avec. Mais pas il faut faire avec fataliste, il faut faire avec en dansant, en chantant et en, voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a changé ma vie. Ouais.
C'est vrai que c'est très rossettien comme idée. Ensuite vous êtes allé à Madrid et à Berlin. Quelle différence notable vous avez notée entre ces villes?
Madrid, c'est une grande fête, presque encore plus que Barcelone. Il y a un truc, c'est une ville de bars, c'est une ville de rue, c'est une ville où tout le monde se parle. Pour une capitale, c'est quand même assez incroyable. Et on rentre dans un bar, on parle avec tout le monde et c'est voilà, c'est très convivial aussi et très, très passionnant. Berlin m'a aussi changé la vie. C'est une ville où je vais depuis que j'ai 20 ans aussi et où je passe régulièrement 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et qui a une extravagance, une folie, une joie malgré son aspect un peu parfois austère à premier regard. Et en réalité, c'est la ville la plus joyeuse peut-être d'Europe. Voilà, je me sentais très très bien dans cet espace-là. Simplement, les hivers ont fini par avoir ma peau parce que après avoir vécu dans le sud, quand la nuit descend à 15h30, c'est un peu difficile. Donc après, on part vers la Méditerranée.
Je crois que l'engagement politique ne concerne pas seulement l'écrivain. Il concerne quiconque a une conscience des problèmes de son pays et de son temps. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout de vocation politique. Si je n'étais pas sud-américain, et si l'Amérique latine n'avait pas les problèmes qu'elle a, avec ce besoin de tant de personnes qu'il y a d'aller résoudre, je serais probablement très tranquille, sur une île déserte, à écrire mes livres, avec mes amis, ma femme, mes enfants. Mais c'est un crime en Amérique latine de rester indifférent à la situation. C'est cela qui a fini par donner de moi une image qui semble double, celle d'écrivain et celle de politique. En réalité, c'est une seule et même image. Et pour tout dire, je crois qu'en dernier lieu, le fait de bien écrire, de bien faire son travail, est déjà une forme d'activité politique. Pour tout résumer, je pense que la meilleure activité politique que chacun d'entre nous puisse accomplir, c'est de bien faire son propre travail.
L'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez en 1982. Pierre Ducrozet, vous avez signé la préface de l'atelier d'écriture « Mes rêves à louer » de Garcia Marquez, traduit par Bernard Cohen et paru aux éditions Segers. Ça se passe en 87 à Cuba, dans l'école qu'il a créée. Je vous laisse nous parler de cette école.
C'était une école pour rassembler un peu tous les talents scénaristes et auteurs d'Amérique latine, dans une idée très... presque internationaliste, cubaine, et voilà, évidemment marxiste aussi. Et donc arrivent dans cet atelier d'écriture des gens de tout le continent, et ils viennent apprendre avec le maître. Mais dans ce livre, ce qu'on voit, c'est que tout le monde est sur un plan d'égalité, dans ce dialogue qui est franchement passionnant, et on apprend plein de choses sur comment raconter une histoire. Garcia Marquez est au même niveau que les autres, et d'ailleurs, parfois, il est chahuté, parfois, il est très humble, parfois, il se rebelle quand même aussi. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est ça, c'est sous la forme d'un dialogue qui est hyper vivant, qui est une sorte de conversation ou avec vraiment un élan, des idées à toutes les pages. Eh bien, on voit comment se raconte une histoire, que faire avec les personnages, que faire avec leurs noms, avec les dialogues, enfin tout ce bazar. Et voilà, et c'est encore mieux qu'une sorte de masterclass, quoi. C'est une sorte de dialogue platonicien où les choses s'accouchent d'elles-mêmes, presque, enfin d'elles-mêmes. Il y a évidemment plein de gens dans la salle, mais et lui, il est, et Garcia Marquez, il est dans toute sa splendeur, c'est-à-dire malicieux, d'une intelligence folle, je sais pas, d'une inventivité narrative. Mais comment il trouve ça? Les autres aussi, d'ailleurs.
Oui.
Et voilà, on apprend plein de choses sur l'art d'écrire.
Est-ce que vous nous liriez la page 8, par exemple?
Avec plaisir. Après une première session, publiée chez Segers dans un volume sous-titré « Comment raconter une histoire », une nouvelle équipe de 9 personnes a été constituée, dont le point de départ est celui-ci. On partira d'une idée dont Gabo, l'affectueux surnom dont il fut affublé sa vie durant, a déjà tiré une nouvelle, « Mes rêves à louer », que personne ne devra lire, hein, s'empresse-t-il d'ajouter, pas d'influence possible. Une femme loue ses rêves. Si vous voulez les connaître, elle est à votre disposition. Prémonitoire, ils vous éviteront peut-être le pire, à moins qu'ils ne vous y préparent. Alma se présente donc un jour à la porte d'une famille, potentiellement porteuse de promesses et de drames. Le premier jour, elle permet à l'enfant d'éviter la mort. À partir de là, 6 épisodes sont à concevoir. Les participants se lancent immédiatement dans des suggestions, dialogues, déroulés possibles à partir de ce mince début, n'ayant de cesse de faire rebondir leurs idées les unes sur les autres.
Là, on a les règles du jeu. Et Pierre Ducrozet, vous montrez que Gabo est avide de collectif, et vous soulevez aussi les forces et les faiblesses du groupe, et vous écrivez ceci, la création est toujours collective, y compris lorsqu'elle se déroule au sein d'une même personne.
Oui.
C'est-à-dire ?
Eh ben, on est plusieurs en soi-même, et on le voit très bien quand on écrit un roman, par exemple ce qui est mon cas en ce moment, où je bataille entre différentes versions de moi-même, l'un me disant « c'est super, vas-y, poursuis cette idée-là », l'autre disant « c'est vraiment nul », le troisième disant « ah, mais il y a peut-être une possibilité », et le quatrième étant incarné dans tel ou tel personnage, et essayant de dire « et moi », voilà, et donc, etc. Et l'un disant aussi « peut-être que tu devrais suivre la voie d'un roman d'aventure », l'autre plutôt de politique, plutôt, on bataille dans nous-mêmes, et là, c'est une bataille, mais avec des vraies personnes qui ont des corps différents, et c'est ça qui est super. On voit bien qu'ils ont des idées assez différentes quand même de la chose, et malgré tout, ils sont à l'écoute, et ils rebondissent vraiment très très bien. Je crois qu'il y a une seule scène où ça clash un peu, justement entre Gabo et Doc, le co-organisateur, mais sinon, c'est très très... très harmonieux, et surtout, voilà, le dialogue fait naître l'idée.
C'est va.
Sí, la casa que doliste es mi sueño.
Va en busca de una casa que no existe.
C'est un extrait de la série de 92 qui a été tiré justement de cet atelier d'écriture ou de la nouvelle de Garcia Marquez qui l'a empêché son atelier de lire, ce qui est quand même assez drôle.
Vous l'avez trouvé,
oui,
la telenovela.
Mais Alquilo para soñar, je me loue pour rêver,
oui,
de Rui Guerra.
Oui.
Et la fin, c'était la pauvre, elle est folle, elle cherche une maison qui n'existe pas. Et donc cette femme, c'est évidemment Alma, la femme qui rêve de ce qui va se produire, mais qui élimine les membres de la famille un à un. Et alors ce qui est amusant dans l'atelier, auquel on assiste vraiment comme si on y était, c'est que Gabo veut faire un produit commercial, il ne s'en cache à aucun moment. Il prend tous les codes de la telenovela, et c'est presque une usine, c'est-à-dire qu'il dit on fait 2 jours par épisode, un jour on le planifie, le lendemain on le fabrique.
Oui, là, j'avoue que j'étais un peu surpris aussi, parce que je ne m'attendais pas à le voir là. Après, il était aussi scénariste, hein, il savait aussi ce que c'était que les règles, peut-être aussi du business du cinéma, et peut-être que c'était une commande de l'école, ou peut-être, je ne sais pas exactement comment ça s'est décidé ça. En tout cas, peut-être que, voilà, ils s'étaient réunis, il y avait une sorte de contrainte, et on sait bien que la contrainte facilite la création, la créativité. Et donc là, c'est un nombre de jours limité. Et ça marche parce que chaque journée est hyper dense. Et ils ont l'idée qui est bonne de dire, bon, d'accord, c'est super qu'on parle, etc., mais il faut qu'on fasse un ordre quand même. Et chaque personne va arriver avec un début à chaque épisode, enfin chaque journée, pour pouvoir travailler à partir d'une base commune, parce que sinon, c'est le bordel.
D'ailleurs, après les séances, on trouve l'argumentaire final, les séquenciers auxquels tient beaucoup Gabo et le scénario du dernier épisode. Est-ce que vous avez appris quelque chose, vous, avec cet atelier ?
Oui, j'ai appris plein de trucs. Mais déjà... j'écris aussi pour le cinéma en ce moment, et donc l'atelier est a priori pour les scénaristes. En réalité, tout compte, tout va aussi pour les romanciers, pour les écrivains de littérature. Mais dans la technique scénaristique, quoi, on apprend des choses. Et bien, dans le séquencier, par exemple, qui est une des choses que j'ai apprises en écrivant pour le cinéma, ben c'est vachement instructif, notamment ce séquencier dont vous parlez à la fin. Il est très précis, il est très bien fait, et c'est une technique qui n'existe que là, que nous, en roman, on ne fait pas vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai appris des choses sur les dialogues. Il a des idées très franches sur les dialogues. Il dit une chose, moi je suis pas tellement forcément d'accord, Il dit que voilà, tout ce qui dépasse en gros du dialogue doit être éliminé.
Pas de trois petits points, pas de choses
alors,
vagues.
Alors ouais, ça, je suis d'accord avec lui. Pas de trois petits points, ça c'est insupportable. Mais en revanche, parfois le dialogue est, je sais pas, je pense à Bret Easton Ellis par exemple, où les gens parlent, mais ils parlent pour rien dire évidemment,
ah oui,
mais ça
bah
fait partie
oui,
de la chose.
Bien sûr.
Ou Foster Wallace, où ça cause en fait. Donc c'est important aussi d'entendre les voix et que ça, peut-être que ça parle à côté et que ça ne veuille rien dire. Voilà, mais là dans le scénario c'est très différent. Ensuite, il y a un truc que j'adore, c'est les noms. Il parle beaucoup des noms, des prénoms des personnages, et il dit mais celui-là, mais ça va pas du tout, ce prénom-là, il faut absolument changer, celui-là j'adore. Et
le chauffeur, pour lui, doit être indien, il s'appelait Bismarck ou Washington.
Évidemment, c'est
oui,
vrai qu'un
bah oui.
Un chauffeur qui s'appelle Washington, on le oui, voit tout de suite avec oui, une casquette et tout. On a envie de prendre cette voiture. Et...
Ou pas.
Ou pas. Peut-être Bismarck, ce sera plus sûr.
Oui.
Et il y a aussi, il faut sacrifier des personnages. Et là, il y a un, il dit, celui-là, franchement, il ne va pas tenir longtemps. Donc, gardons-le encore cet épisode et puis après, on le flingue. Quoi. Il est très drôle. Ouais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Pierre Ducrozet, vous avez publié Autoportrait sans moi dans la collection Traits et Portraits du Mercure de France en août dernier, parce qu'à 40 ans, sans maison, ni enfant, ni attache, vous avez voulu faire un état des lieux de vous-même. Alors pourquoi sans vous ?
Parce que j'avais peur de l'autoportrait, j'avais peur de parler de moi et que ce soit... je sais pas, enfin je reculais face à l'obstacle, et donc je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de traverser les lieux, les regards, les rencontres, toutes les choses que j'aime et qui me parcourent, mais que je m'en absente. Enfin, que ce soit comme une sorte d'autoportrait à l'inverse, c'est-à-dire par les objets, par exemple, par les choses que je vois, mais que, sans que j'y sois. En réalité, évidemment, c'était voué à l'échec, je suis partout, à toutes les pages. Mais j'aimais bien cette idée d'un autoportrait dont je m'absente.
Vous dites qu'écrire, c'est un état d'extrême attention au monde, et vous dites que comme la musique, l'écriture vous fait pleurer et rire et vous augmente.
Oui, je me sens plus présent, effectivement, grâce à l'écriture. Non pas présent à rebours ou après, comme dirait Proust peut-être, ou une seconde vie, ou la revivre plus. Non, présent directement dans le monde, en fait. C'est pas vraiment... J'ai toujours été opposé à cette opposition en disant oh, « ça me sépare de la vie, l'écriture, ouais, et ensuite j'y reviens ». Il n'y a aucune... Je pense que, enfin, moi, c'est à mon sens une erreur. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre l'écriture et la vie. L'une augmente l'autre, l'autre augmente l'une. Et elles sont dans le même fleuve. Et quand j'écris, je ne suis pas du tout séparé du monde. Je suis en plein dedans. Et inversement, quand je suis dans le monde, je suis dans la littérature aussi. Mais je ne vois pas de différence. Ce serait de dire que, par exemple, quand on lit un livre, qu'on serait séparé de l'extérieur, de ses sens, du corps. Non.
On s'extrait un peu, c'est pas pareil d'être dans une soirée et de discuter avec plein de gens qu'on connaît pas, et puis d'être seul en train d'écrire, et de... c'est presque méta.
Je trouve qu'on est autant dans le monde, et que si on arrive à rentrer dans l'écriture, on rentre dans une surface, même une peau, un contact avec le monde qui peut être plus profond qu'une soirée dans laquelle on s'ennuie.
Ah bah ça c'est souvent plus profond, oui, puisqu'on ouais, entre en soi. La Rilke serait d'accord avec nous.
Ah oui, s'il était là, ce serait...
Bah oui, bah il est là d'ailleurs.
il est à côté de...
Il nous dit de descendre en nous-mêmes.
Et exactement, il dirait ça, il le faisait très bien. Et non, je crois pas. En tout cas, j'espère que vraiment que l'écriture me sépare pas du reste. Et donc, je rêve d'un truc où voilà, ça s'augmente, les deux s'augmentent sans cesse.
Un mot sur les photos, j'en ai repéré une de Céline Villegas.
Ah oui, formidable photo. Qui allait hyper bien dans ce que j'essayais de dire. C'est au moment où justement je parle de Clément Rosset et de l'Espagne et de cette matérialité poétique des choses qu'il y a en Espagne. C'est un vermouth qui est la chose qu'on boit tous les samedis, tous les dimanches à midi, 1h, et souvent toute la journée, avec une part de tortilla. Et sur un comptoir, il y a quelque chose de Saul Leiter dans cette photo, et qui pour moi, voilà, comme les autres photos, d'ailleurs il y a Saul Leiter aussi dans le livre, il y a les photos de Julieta aussi, ce sont toutes des photos qui ont un sens pour moi dans mon existence et les lieux que j'aime.
Tout à l'heure, vous parliez de la joie, quand on parlait de Clément Rosset notamment, et vous écrivez dans ce livre, il n'est pas nécessaire que nos vies soient totalement flinguées pour être contentes. Seul compte l'œil. Mais vous dites aussi que vous avez toujours le poisson scorpion de Nicolas Bouvier dans la poche, et que Bouvier considérait le voyage comme une mise à l'épreuve, un processus de dénuement qui mène au regard lucide, à la vie dans son essence même. Alors, est-ce que vous aimez vous mettre à l'épreuve ?
Oui.
On ne peut pas jouir sans cesse.
Oui, j'aime bien me mettre à l'épreuve, j'aime bien le risque, j'aime bien, par exemple, la nuit, le voyage, tous ces lieux de brèche, tous ces lieux où ça s'augmente, mais il y a une part de danger aussi, il y a une part de noirceur. Et donc, ce livre, Le Poisson-Scorpion, dit très bien ça, parce que Bouvier voit le voyage comme un dénuement, comme un exercice de périlleux. En fait, c'est pas anodin. Et il a mis son corps en danger et il a failli y passer, il a failli perdre la boule à Ceylan, en Sri Lanka, parce que c'est tout un... Au début du livre, il se regarde dans le miroir et il se rase et il voit que sous sa barbe, ses joues ont été mangées, en fait, par les épreuves, par le dénuement, par le voyage, qui a été un voyage joyeux mais dur. Et cette image va le perturber beaucoup. Et il y a ça dans le voyage, c'est de se regarder dans le miroir à un moment donné, au début ou à la fin, et de se dire waouh, qui suis-je et où suis-je? Et il y a un vertige de l'existence. Donc c'est ça que j'aime dans l'écriture, dans la nuit, dans le voyage, dans l'amour, dans tout.
Est-ce que vous souffrez facilement?
Oui, enfin trop facilement certainement, mais j'essaye de pas y prendre spécialement du plaisir, parce que la vraie souffrance, ça je l'ai appris les 2-3 dernières années, la vraie souffrance n'est pas intéressante. Celle qu'on aime, c'est celle de la mélancolie dont vous parliez si bien, mais pas la vraie, vraie souffrance. Celle-là, elle est détestable. Donc, moi, si un truc qui m'intéresse, c'est évidemment peut-être les zones grises, les zones de danger, mais la vraie souffrance, je préfère l'éviter.
Mais on peut... Les plus grands enseignements, souvent, hélas, viennent de la vraie souffrance.
Oui, en tout cas, on apprend beaucoup. Bah, Nietzsche le savait bien et plein d'autres. On apprend, mais est-ce qu'on apprend, un savoir joyeux et non pas amer? Je le sais pas. En tout cas, j'ai appris, par exemple, je parle de cette année, une sorte d'année en enfer, voilà, pour il y a 2-3 ans. Et qu'est-ce que j'en ai appris? Plein de choses. Et en même temps, je ne veux pas y repasser. Donc voilà, ce que je souhaite éventuellement, c'est de descendre profondément, c'est de monter haut. Mais je ne souhaite pas y laisser ma peau.
vous avez choisi, Pierre Ducrozet, All I Want de LCD Sound System.
Oui, peut-être mon groupe préféré, un groupe de New York de début des années 2000 qui a inventé quelque chose entre le rock, entre l'électro. James Murphy, un génie de la musique, et ils seront dans 15 jours à Paris d'ailleurs, et c'est un groupe formidable, une énergie assez dingue sur scène et qui m'a beaucoup marqué pendant toutes ces années. Ouais.
Votre roman le plus musical, c'est Les Variations de Paul, et vous dites que vous auriez préféré être musicien.
C'est en tout cas ce que je cherche quand j'écris, c'est la musique, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est le rythme, c'est le son. Oui, je crois que j'aurais vraiment aimé être musicien. Il y a une quête de la mélodie, mais aussi du silence qu'il y a dans la musique. Je sais pas, dans la musique, il y a une sorte de... Tout est dit et rien n'est à rajouter, quoi. Et il y a quelque chose comme ça dans l'écriture qui me plaît, c'est d'aller vers le flow, vers le... Voilà, c'est ce que dit évidemment Kerouac quand il dit qu'écrire, c'est souffler dans un saxophone. Moi, c'est ce à quoi j'aspire, c'est de souffler et que ça m'emporte vers des territoires inconnus, comme quand on écoute, Coltrane, on sait jamais où ça va arriver.
C'est-à-dire que, comme un des personnages de mon livre qui s'appelle Andrés et qui me reflète assez dans le livre de Manuel, je suis un homme qui aime beaucoup écouter de la musique aléatoire et ne pas être dérangé pendant qu'il l'écoute, et qui voudrait quand même arriver à faire son travail idéologique et politique en gardant ce côté esthétique, ce côté de vie privée dans le champ de la littérature et de l'art qu'il a toujours réservé.
Pour le plaisir, Julio Cortázar en 74 sur l'ORTF au micro de Bernard Pivot. On le trouve mort et donc bien vivant dans Autoportrait sans moi. Pierre Ducrozet, il vient boire des coups avec vous, comme Roberto Bolaño. Et je crois que vous préparez un ouvrage sur Bolaño chez Segers.
On aimerait faire ça, effectivement, ouais. Ouais, c'est mon auteur, enfin de mes deux auteurs préférés peut-être. En tout cas, ils forment une bande... Que j'adore et j'aimerais... En fait, Bolaño, il y a un truc où je ne sais pas comment, par quel... Enfin, si, je sais comment. Il arrive à réunir, c'est notre auteur peut-être préféré à 1000 auteurs, que ce soit depuis Mariana Enríquez en Argentine, à Patti Smith, à Virginie Despentes, à Mathias Sénard, à Mohamed Bougarsar. Enfin, on est... Voilà, c'est une sorte de phare pour nous tous.
Il est extraordinaire.
Voilà. Et il y a quelque chose qui nous guide. C'est une sorte de... C'est qu'il a une liberté absolu, je suis en train de relire plein de choses là pour préparer le cours justement, et à chaque fois ça me fascine, c'est-à-dire je ne sais jamais où il va aller, la liberté de son récit, de sa phrase, de sa folie.
Comme Coltrane.
Comme Coltrane, exactement. Et il part, et lui-même, je suis certain qu'il ne sait pas où il va, et c'est ça qui donne à son... Il y a un flow, il y a un flux, il y a une brume aussi chez lui. Tout est très mystérieux, tout est très flottant, et drôle, et hilarant.
Ah oui, il est hilarant. Alors, on le connaît pour ses romans très volumineux, mais je recommande aussi aux auditeurs, sous votre haut patronage et validation, ses nouvelles.
Ah, les nouvelles sont extraordinaires.
Fabuleuses. J'ai jamais vu de choses aussi originales et surprenantes.
Enfin, toutes sont des formes uniques.
Je crois que hier, en parlant avec vous, je vous ai expliqué comment les choses m'arrivent. C'est pas moi qui décide pour la plupart du temps. C'est quelque chose, on peut dire peut-être le Dieu, le destin ou quoi. Mais moi, j'attends toujours le moment que quelqu'un frappe et dit « Allez-y », n'est-ce pas ? C'est comme ça, plutôt.
Pierre Ducrozet, à 17 ans, décidément, c'est un âge qui a compté. Votre père vous a acheté une pile de livres pour votre anniversaire et qui ont tous été d'une importance décisive. Il y avait « Mort à crédit », « Tropide du Capricorne » de Miller, « Conte de la folie ordinaire » de Bukowski, « Martin Eden », « Jack London », « Lolita Nabokov », « Bourlinguer ». Bon, je ne peux pas tous les citer, mais là, on entend Henry Miller en 69 sur Radio-Canada. Oui. Et vous écrivez dans « Autoportrait sans moi », « Miller a arrêté de se déplacer sur la Terre, il se consacre entièrement au ping-pong ».
Ce qu'il faisait déjà de son vivant. Ouais, c'était... À la fin, il faisait presque plus que du ping-pong. Et là, maintenant, depuis qu'il est mort, effectivement, c'est sa principale occupation. On se retrouve tous dans un bar en bas de chez moi et on discute. Et Miller est un des plus volubiles. J'adore l'écouter en plus. Regardez cette voix extraordinaire, cet humour. Et maintenant, je pense qu'il fait plus que ça. Cortázar, on en a pas assez parlé tout à l'heure, mais il a ce talent aussi avec les R. C'est-à-dire qu'il est un Argentin qui n'arrive pas à prononcer les R. Et ça, c'est hyper doux et hyper. Il est drôle. C'est parmi mes meilleurs amis, effectivement. On se marre beaucoup.
Si probablement le concept de l'engagement vaut dans le cadre des conceptions sartriennes, il ne vaut rien dans les miens. dans la mienne de conception. Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé. À aucune Saint-Valentin, je ne suis pas un domestique. J'écris ce que je pense et il n'y a pas besoin d'un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu'on écrit ce qu'on pense.
Pierre Ducrozet, vous affectionnez Michaud, Verlaine et Aragon, qu'on entend en 67 sur l'ORTF, dans un extrait savoureux.
Oui, il y a plein de livres que... effectivement, il est très drôle. Plein de livres que j'aime moins aussi d'Aragon. Mais je crois que c'est le roman inachevé qui me bouleverse. Ces poèmes avec ce rythme, c'est vraiment un des plus grands poètes du XXe siècle. Il a une chanson en lui, il a un rythme qui est qu'à lui. Il était plein de défauts et plein de beauté aussi. Il me touche beaucoup. Michaud me touche encore plus, à vrai dire.
Mais alors, il y a peu, on a reçu Éric Fotorino qui a dit « Je suis né troué », empruntant cette expression à Michaud. Et vous, vous écrivez « Je me sens troué, dispersé en morceaux ».
Ouais, il en parle si bien de ce trou, il en parle dans Équateur notamment. Au cœur de soi, vers le sternum, il y a un trou central. Bah oui, je crois qu'on l'a tous plus ou moins et qu'on essaye de mettre des choses dedans. Basquiat l'avait aussi réellement et il mettait, parce qu'il avait eu un accident, on lui avait enlevé la rate et il y avait une sorte de trou au centre de son cœur, et de son corps, pardon, c'est joli. Et il a essayé toute sa vie de mettre plein de choses dedans pour combler. Bah, j'essaye évidemment de faire ça aussi, sans que ce soit un pis-aller, sans que ce soit une béquille, mais on se remplit pour combler ce trou originel, oui.
Vous dites qu'en Espagne, il y a deux idées qui vous appuient, « Rien ne vaut rien » et « La joie de vivre est infinie », là on vient un peu vers Clément Rosset, et vous écrivez aussi « J'ai peur dans le noir, je me sens bien dans le noir ». J'ai l'impression que ça résume tout ça. « J'ai peur dans le noir, je me sens bien dans le noir ». Il y a une impossibilité, et donc tout est possible, puisqu'on sait que c'est impossible.
C'est vrai, ouais, exactement. C'est vrai que ça résume bien. Ça me résume bien. Je suis resté l'enfant qui a peur dans le noir, qui veut appeler ses parents parce qu'il est coincé chez des gens, chez qui veut pas dormir. Et je me souviens très très bien de cette scène-là. Et voilà. Et en même temps, je suis devenu l'enfant qui ne veut plus sortir de la nuit parce qu'il est très bien dedans. Quand il danse, quand il part. Voilà. Et donc je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de partir, par exemple. J'ai toujours peur de partir de chez moi. Et en réalité, je ne fais que ça. C'est-à-dire, j'ai plus de chez moi, d'ailleurs. Je vais et je viens. Donc, je suis entre les deux. À la fois très sensible, et j'ai essayé de me faire un peu aussi, un peu plus, avec le cuir, un petit peu plus dur aussi. Et sans y arriver, évidemment. Ouais.
Oh, je suis sûre qu'il y a une progression tout de même.
Il ne faut pas que ce soit trop dur, parce que sinon, après, ça laisse plus passer.
Bien sûr.
Ça se laisse plus passer les choses.
C'est vrai.
Donc, mais ça, j'espère que ça résiste juste au froid et aux intempéries. Mais il faut rester le plus poreux. D'ailleurs, ça, c'est important pour écrire. Si on n'est pas poreux, on ne peut rien faire. Donc, il faut que ce soit à la fois les pores soient ouverts et en même temps pas trop ouverts non plus. Sinon on chope tout ce qui arrive, quoi.
Il nous reste quelques secondes, alors je vais exaucer un de vos souhaits qui est de terminer avec une musique qui est Our Way to Fall de Yo La Tengo. Et dessus, je vais vous demander de nous parler en quelques secondes de votre découverte pour les auditeurs, qui est le film Black Dog de Hu Guan.
Merveilleuse chanson, merci beaucoup de Yo La Tengo de la passer. Ce film, un des plus beaux que j'ai vu depuis un an, je pense. C'est l'histoire d'une amitié entre un repris de justice, quelqu'un qui sort de prison, et un chien sublime, noir, comme ça, qui a au début la rage, je crois. Enfin, on pense qu'il l'a, en tout cas. Et ils se retrouvent, ils sont aussi taiseux l'un que l'autre. Cet acteur ne va pas dire quasiment un mot de tout le film. Et on est dans une ville fantôme, ça, des confins de la Chine et de la Mongolie, et qui est abandonnée. Et ces deux personnages, parce que le chien est le personnage principal aussi du film, traversent cette ville. C'est sublime, les images sont sublimes, l'amitié est déchirante. Et j'ai adoré ça. C'est vraiment. Et il y a du Chaplin, tout en ayant, du Antonioni. C'est merveilleux.
On mettra évidemment les références sur le site internet. Merci beaucoup, Pierre Ducrozet.
Merci beaucoup, Eva. Merci.
L'atelier d'écriture, Mes rêves alloués, de Gabriel Garcia Marquez, traduit par Bernard Cohen est préfacé par Vos soins et paru aux éditions Segers. Votre essai Autoportrait sans moi est paru dans la collection 13 et portraits du Mercure de France. Et vous en ferez une lecture musicale à Marseille le 1er juin au festival Olé Beaujour. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la technique, Loïs Moreau et Frédéric Kiefer.